Une autre belle journée ensoleillée à Victoria. On a actuellement 18 degrés au centre-ville à 16h. Merci d'écouter CILS FM 107,9. Vous entrez maintenant dans Le Débrief, votre émission quotidienne d'actualité et affaires publiques. Alexis Gagnon avec vous jusqu'à 17h. En interview aujourd'hui vers 16h35, nous retrouvons en studio Monsieur François Brassard de l'organisme Dogwood Initiative, secteur d'Esquimalt, avec qui on fera le point sur le dossier des pipelines. Pour l'instant, on laisse notre collaborateur Denis Lépine prendre les commandes avec ses deux bulletins d'information. On se retrouvera dans 4 minutes avec la météo et ce sera suivi du bulletin des Nations Unies. À tout de suite. La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info-Éducom national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Amarjit Sohi, a commenté la phase 1 du plan d'infrastructure du Canada. Il a souligné la façon dont Ottawa respecte ses engagements dans ce dossier. Il a aussi parlé des signatures d'entente bilatérales avec l'ensemble des provinces et des territoires au cours de l'été. Rappelons que la phase 1 fait référence également à 729 projets qui ont été approuvés aux fins de financement et 60% de ces projets sont déjà en cours. Et plus de 400 collectivités de tout le Canada vont bénéficier de ces projets. Lancement d'un processus de consultation pour recueillir les commentaires des résidents canadiens, des fonctionnaires fédéraux, des ministères et de l'industrie sur le plan de transformation de la technologie de l'information du service Partagé Canada. Le dit plan constitue une feuille de route pour réaliser la modernisation de ce secteur. Le gouvernement canadien estime que le processus est l'occasion ultime pour la population du pays de donner son opinion pour s'assurer de l'efficacité des services gouvernementaux. Les commentaires seront acceptés jusqu'au 31 octobre. Le Canada sera l'hôte de la Journée mondiale de l'environnement le 5 juillet 2017. Le tout a été confirmé par Catherine McKenna, ministre canadienne de l'Environnement et des changements climatiques. Elle a dit que l'esprit de collaboration qui habite les Canadiens est l'une des raisons qui font que le Canada est l'hôte tout désigné pour accueillir l'événement. Elle a également dit que cette journée sera un volet important des célébrations du 150e anniversaire du Canada. Le gouvernement canadien a fait savoir qu'il profitera de la Journée mondiale de l'environnement pour faire connaître au reste du monde la beauté de son environnement. Publication du rapport sur les résultats d'une enquête Ipsos sur les soins palliatifs. Publié par l'initiative L'importance des soins palliatifs, les résultats montrent un important soutien pour les soins palliatifs de grande qualité d'un bout à l'autre du Canada. Et les Canadiens sont également fortement en faveur de la prestation de ces soins dans un éventail de milieux, notamment les hôpitaux et les centres résidentiels. De plus, 86% des personnes interrogées soutiennent la notion d'un leadership fort de la part du gouvernement fédéral. Une conférence sur les soins palliatifs se tiendra d'ailleurs à Ottawa du 7 au 9 novembre. Visite en sol canadien du premier ministre chinois Lai Qiqiang. Justin Trudeau a parlé de la peine de mort et a confirmé que le Canada va s'opposer à employer la peine de mort lorsqu'il négociera un traité d'extradition avec la Chine. Justin Trudeau a déclaré aussi que la peine de mort ne fait pas partie des pratiques canadiennes. Il a également dit qu'il ne renoncera pas à la primauté du droit dans le but d'établir de meilleures relations avec la Chine. En conférence de presse, Justin Trudeau a dit aussi que son gouvernement n'enverra jamais un individu dans un pays où il pourrait être exécuté ou encore torturé. John McCollum a conclu sa visite à New York. Le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté a pris part à des réunions sur la crise en matière de réfugiés et de migration. Il a assisté à un forum du secteur privé. Il a aussi pris part à de nombreux événements organisés en marge de la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies, notamment une table ronde sur les moyens à prendre pour unir les forces des pays face aux crises des réfugiés dans le monde. Il a déclaré que beaucoup de gens ont besoin de protection et cette situation touche quantité de pays. Plus de 39,6 millions de dollars du fédéral iront à la réalisation de 14 projets de technologies propres dans l'ensemble du pays. Technologie du développement durable Canada a approuvé des investissements de plus de 840 millions de dollars dans des industries de technologies propres partout au pays depuis décembre 2015. Les projets seront menés en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Ontario et au Québec. Plusieurs secteurs sont visés par ces projets, notamment l'agriculture et l'énergie. Au sport, au baseball majeur, eh bien, autre revers de Toronto, cette fois 2-1 en 12e manche contre Seattle. Jumelé à la victoire des Red Sox, Toronto se retrouve maintenant à 5 matchs de la tête, mais est toujours en première place du classement des meilleurs deuxièmes. Un match devant Baltimore, les Jays sont en congé aujourd'hui. Ils recevront les Yankees de New York à compter de vendredi. Hockey maintenant, Coupe du Monde, victoire de l'Amérique du Nord en prolongation, 4-3 contre la Suède. Et autre gain du Canada, cette fois 4-1 contre l'Europe. Cet après-midi, la Finlande affrontera la Russie et les États-Unis joueront contre la République tchèque ce soir. Et dans la NFL, ce soir, une rencontre, les Texans de Houston seront à Foxborough pour y affronter les Patriots.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9. Il est 16h05. On va jeter un petit coup d'œil à la météo. Ça va s'ennuager au cours des prochaines heures. C'est dégagé pour le moment avec 16 degrés. Ça a baissé un petit peu au centre-ville de Victoria. Donc les nuages se mettent de la partie. Ennuagement ce soir, suivi de pluies intermittentes débutant en fin de nuit. Ce sera venteux près du détroit Juan de Fuca en soirée avec un minimum de 11. Pour demain vendredi, on nous prédit de la pluie encore et avec un maximum de 16 degrés. Et ça ne s'arrange pas pour samedi et dimanche. Le ciel va demeurer couvert. Samedi, ce sera nuageux. Il ne semble pas y avoir de pluie dans les pronostics d'Environnement Canada pour samedi. Donc, c'est peut-être le côté positif pour samedi 24 septembre. Cependant, dimanche, la pluie pourrait être de la partie avec une probabilité d'averse de 30% et un maximum de 19. Le retour du soleil est prévu pour lundi 26 septembre seulement avec un maximum de 21 degrés. On va tout de suite se rendre au bulletin des Nations Unies et on se retrouve dans une dizaine de minutes pour les nouvelles provinciales. À tout de suite.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour ce journal de la radio des Nations Unies. Avec l'adoption historique par le Conseil de sécurité d'une résolution contre les menaces terroristes sur l'aviation civile mondiale. La suite du débat de l'Assemblée Générale, nous entendrons Paul Biya, le président du Cameroun. Il sera aussi question de changement climatique et de maladies cardiovasculaires. Enfin, un tour d'horizon de l'actualité avec Michaël Jean, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Le Conseil de sécurité a adopté ce matin pour la première fois une résolution sur la menace du terrorisme sur l'aviation civile mondiale. Texte qui demande notamment aux États de veiller à ce que des mesures de sécurité efficaces soient en place dans leurs aéroports. Devant les 15, la secrétaire générale de l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, Fang Lui, a indiqué que 10 millions de personnes prennent l'avion chaque jour et qu'un tiers de la valeur du commerce mondial est acheminée par les airs. Ces chiffres devraient doubler d'ici à 2030 et l'OACI est en train de mettre sur pied une stratégie mondiale pour la sécurité aérienne qui vise notamment à renforcer les capacités des États. Également présente, la ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer de la France a fait le point sur l'action de son gouvernement. On écoute Ségolène Royal.
Nous avons eu récemment en France une attaque dans un train européen dans le Thalys. À la suite de cette attaque, j'ai mis en place des portiques d'accès au train et nous sommes en train d'examiner de la même façon l'opportunité d'installer des portiques de sécurité à l'entrée des aéroports, pas seulement à proximité de l'embarquement. Nous testons également des portiques mobiles. Nous avons également déployé des brigades canines et nous devons effectivement avoir à l'esprit la nécessité d'échanger ces nouvelles technologies de sécurité et notamment les portiques mobiles qui sont beaucoup moins repérables et qui sont également très efficaces. Car en effet, il y a une démocratisation du transport aérien. La baisse des prix a fait en sorte qu'il y a de plus en plus de voyageurs. Quand on voit ce que nous avons subi à Nice, nous imaginons le terrible drame que pourrait être une attaque au moment des départs en vacances.
Suite du débat annuel de l'Assemblée générale des Nations Unies, premier orateur de ce troisième jour, le président du Cameroun, Paul Biya, qui a appelé ce jeudi la communauté internationale à passer à l'action, dépasser les discours et surtout agir pour mettre en œuvre les ODD, les objectifs de développement durable, adoptés il y a un an par les États membres des Nations Unies. On l'écoute.
Organisons-nous aujourd'hui pour que les ODD connaissent un sort meilleur, puisqu'il s'agit de transformer le monde et de ne laisser personne en marge. Donnons-nous alors les moyens de nos ambitions. Ces moyens, à notre avis, sont de trois ordres. D'ordre politique d'abord, notre volonté politique devra s'exercer de façon continue et ne pas varier selon les circonstances. D'ordre financier ensuite, il faudra que les contributions soient effectives, sûres et suffisantes, ce qui nécessitera une mobilisation sans précédent. D'ordre moral enfin, le principe d'obligation de solidarité entre les peuples devra être réaffirmé et observé.
En marge de l'Assemblée générale, de nombreux événements ont lieu, y compris des points et conférences de presse, à l'instar de celle donnée ce matin par le ministre marocain des Affaires étrangères. Devant les journalistes, Salah Eddine Mezwar a justifié le choix de son pays pour accueillir à Marrakech en novembre la COP22, la 22e conférence des Nations Unies sur le changement climatique.
Le Maroc, depuis le sommet de Rio, est engagé d'une manière forte et déterminée dans les questions de changement climatique. Le Maroc a mis en œuvre des politiques en matière de planification du développement qui intègrent fortement la dimension environnementale et la dimension climatique. Le Maroc a été parmi les premiers pays à s'engager d'une manière extrêmement volontaire vers les énergies renouvelables. Et non seulement s'engager, mais mettre en œuvre. Première grande centrale solaire, c'est au Maroc. Un programme de 2000 MW de solaire est engagé sur l'éolien et sur d'autres aspects. Donc, c'est la crédibilité, c'est l'engagement, mais également la symbolique. La symbolique que cette COP se tienne sur une terre qui est la terre africaine, pleine de promesses mais également pleine de défis.
Et puis, parmi les réunions ce jeudi au siège de l'ONU, on retiendra celle sur le lancement de l'initiative Cœur Mondiaux pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité au monde. Des maladies dues principalement à des comportements malsains tels que l'usage du tabac, la consommation d'aliments gras et ou salés et le manque d'activité physique. Les explications du docteur Étienne Krug, porte-parole de l'Organisation Mondiale de la Santé pour la nouvelle initiative Cœur Mondiaux.
C'est une initiative qui, en fait, a pour but de s'attaquer aux maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires, donc, c'est surtout les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux, qui sont la cause de décès numéro un dans le monde, avec plus de 17 millions de personnes qui meurent chaque année de ces maladies. Longtemps, elles ont été considérées des maladies des pays riches, mais en fait, ce sont les maladies de tous les pays. La grande majorité de ces décès sont dans les pays en voie de développement. Et on veut s'attaquer d'une part aux facteurs de risque et aussi améliorer la détection et le traitement. Donc on va en effet commencer dans une douzaine de pays, mais c'est un programme qui va devenir global assez rapidement parce que tous les pays en ont besoin.
Vous écoutez un programme de la radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité, le débat annuel de l'ONU, c'est aussi l'occasion de rencontres multilatérales de haut niveau en marge donc de l'Assemblée Générale. Pour l'Organisation Internationale de la Francophonie, c'est le moment de faire le bilan sur maintes questions. Christina Silvero est allée à la rencontre de sa secrétaire générale pour discuter des priorités soulevées cette année. Michael Jean s'est tout d'abord félicité de la thématique des migrants et réfugiés, rappelant qu'elle-même a été réfugiée. Elle est venue témoigner.
Qui l'eût cru que la petite réfugiée d'Haïti serait un jour appelée à porter la plus haute responsabilité politique en qualité de gouverneur général et commandante en chef du Canada et aujourd'hui secrétaire général de la francophonie.
Michael Jean était probablement l'une des rares responsables à l'ONU cette semaine à avoir connu le statut de réfugié. En partageant son expérience, elle a souhaité souligner et illustrer que ces personnes arrivent certes dépossédées, mais qu'elles arrivent à surmonter les défis et à grandement contribuer aux sociétés d'accueil. Il faut donc savoir accueillir, mais aussi agir à la source du problème.
La francophonie a porté comme plaidoyer et comme force d'action l'importance d'agir à la source du problème, c'est-à-dire sur ce qui pousse ces populations à fuir en si grand nombre. Sentiment d'impasse, sentiment d'avenir bouché, chômage, c'est ça le vrai problème et c'est là-dessus qu'il faut agir en permettant de tout engager dans le développement pour la croissance des pays d'où partent ces populations.
Enfin, sur le dossier des migrants et réfugiés, la responsable de l'OIF, qui regroupe des pays d'accueil, de transit et de destination, a plaidé pour une action coordonnée et concertée pour être plus efficace. Autre dossier prioritaire abordé lors de cette assemblée, les transitions politiques en Afrique, à la lumière de la crise préélectorale en RDC et celle postélectorale au Gabon. Pour Michael Jean, la situation en RDC est absolument déplorable.
Le plus important aussi, c'est que ces acteurs politiques agissent de manière responsable de part et d'autre. C'est-à-dire que la raison triomphe, qu'on sorte de ces débordements, que l'on accepte de travailler dans l'intérêt supérieur du pays. Parce que moi, je ne peux pas partager ce fatalisme que dès lors que l'on engage un processus électoral, eh ben, on doit se faire au fait que bien sûr, il y aura du sang versé, bien sûr, il y aura des morts. Non, cela est inacceptable. Et cela risque, je pense, de conduire le peuple congolais à une situation bloquée et des plus graves.
L'OIF prône le dialogue et de mener à terme le processus électoral.
Nous maintenons le même plaidoyer. Rassembler, tenir, maintenir le dialogue national inclusif. Arriver à un consensus autour de l'échéancier du calendrier électoral dans le respect de la Constitution. S'il existe certaines difficultés techniques pour arriver à temps dans les dates prévues par la Constitution, restons quand même au plus près de ce que la Constitution exige pour mener à terme ce processus.
Pour la situation au Gabon, l'OIF prône également le dialogue et le respect de la Constitution et des règles, mais aussi un travail d'ensemble concerté.
Vous avez vu à la fois mon envoyé spécial, M. Ould Abdallah, travaillant avec M. Batili, qui est le représentant spécial secrétaire général de l'ONU au Gabon, travaillant aussi avec M. Chergui de l'Union africaine, étant en constant aussi échange avec l'Union européenne. Et c'est ça l'approche essentiel face aux acteurs politiques au Gabon même, envoyant les messages qu'il faut, étant là pour lancer les appels nécessaires et en même temps constamment engager le dialogue avec, pour le Gabon, que ce soit le président Bongo ou M. Jinping, leurs partisans, les autres partis aussi de l'opposition, la classe politique, extrêmement important.
Selon sa secrétaire générale, l'OIF a un accès particulier aux acteurs politiques dans ces pays. De plus, participer à la discussion sans ingérence fait la différence, mais toujours de façon coordonnée.
Voilà, fin de ce journal de la Radio des Nations Unies à retrouver sur l'Internet et les médias sociaux. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
C'est sur cette interview accordée par l'ancienne gouverneure du Canada, Michaël Jean, au Journal des Nations Unies, que l'on reprend le débrief. L'info se poursuit dans le débrief. On va passer aux nouvelles provinciales et locales. On commence par une nouvelle sur la crise de l'immobilier. On a constaté du côté du ministère des Finances de la Colombie-Britannique que le nombre d'achats par des étrangers, le nombre d'achats de biens immobiliers par des étrangers en Colombie-Britannique avait chuté de façon marquée au cours du mois d'août. C'est évidemment la conséquence de l'introduction de cette taxe de 15% qui vise les acheteurs étrangers depuis le 2 août. Donc c'est une baisse majeure. On a constaté seulement 60 transactions immobilières impliquant des étrangers en Colombie-Britannique, c'est-à-dire dans la région de Vancouver précisément, où cette taxe est en vigueur. Donc seulement 60 transactions immobilières impliquant des étrangers dans la région de Vancouver au mois d'août, alors que ce nombre avait été de près de 2000 transactions au cours du mois de juillet. Et au cours du mois de juillet, c'était donc 13,2% de l'ensemble des transactions, la part des étrangers. Et maintenant, au mois d'août, ça n'est plus que 0,9%. Donc cette taxe a eu un effet bœuf, comme on dit, un effet majeur et immédiat. On est passé du jour à la nuit entre le mois de juillet et le mois d'août. Et lors d'un scrum, d'un entretien avec les reporters, les journalistes, la première ministre Christy Clark a déclaré cette semaine que c'était l'intention, que c'était bien l'intention de la taxe. Elle a assumé, donc elle a dit que ses résultats dans les ventes étaient voulus de la part de son gouvernement. Donc voilà, donc c'est une chute de plusieurs millions de dollars. On est passé de 2,3 milliards en ventes impliquant des étrangers, toujours dans le marché immobilier, bien sûr. Donc, on est passé de 2,3 milliards à seulement 47 millions entre juillet et août. Donc, cette taxe de 15% imposée aux acheteurs étrangers de biens immobiliers a eu son effet et c'est en train de calmer le jeu sur le marché immobilier. Libye qui était vraiment en surchauffe. Donc, à suivre quand même au cours des prochains mois. C'est un dossier qui n'est pas prêt de se refermer. On va parler à présent d'une nouvelle qui paraît sur le portail de Radio-Canada Colombie-Britannique, faisant état de la sortie du nouvel annuaire des francophones de la Colombie-Britannique, qui a été dévoilé aujourd'hui, jeudi, lors d'un lancement officiel du côté de Vancouver. Cet événement annuel marque la rentrée francophone, et écrit Radio-Canada sur le portail, et permet aux participants de faire du réseautage. Radio-Canada diffusera le lancement de l'annuaire dans son réseau. La version papier du recueil publié par la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, la FFCB, est distribué à 10 000 exemplaires dans la province. Sa version en ligne obtient plus de 1100 visites par mois, a rapporté à Radio-Canada Florence Bessac, qui est coordonnatrice des communications de la FFCB. Dans les deux cas, donc sur papier et en ligne, le répertoire, cet annuaire, donc, donne au public les coordonnées d'entreprises francophones, d'associations ou d'organismes gouvernementaux qui offrent des services en français. L'événement d'aujourd'hui a porté sur les lieux de distribution de l'annuaire, sa promotion et les améliorations qui ont été apportées au site Internet, a déclaré Florence Bessac. La nouvelle couverture du recueil sera dévoilée par le député Mark Dalton de la circonscription Maple Ridge-Mitchin. Et on attend également la visite des consuls adjoints de Suisse et de France pour ce dévoilement de l'annuaire 2016. Autrement, toujours sur le portail de Radio-Canada, il y a un cri du cœur d'une Américaine désormais résidente au Canada en faveur de l'universalité des soins de santé. Il s'agit de Roxana Farnsworth. C'est un article qui a attiré mon attention. Je voulais vous le mentionner. Vous le trouverez aisément sur le portail de Radio-Canada Colombie-Britannique. Donc, Roxana Farnsworth, une Américaine maintenant établie au Canada, suit avec intérêt le procès sur la santé privée en Colombie-Britannique. La mère de trois enfants lance un cri du cœur pour que les Canadiens prêtent attention à ce procès qui pourrait amener une certaines privatisations du système de santé. Donc, si vous avez entendu parler de ce procès, c'est le procès du docteur Brian Day. Ça vous dit peut-être quelque chose. On en a parlé dans certaines éditions du débrief récemment. Donc, elle a déclaré au journaliste Francis Plourde de Radio-Canada, « Plusieurs de mes amis ici au Canada se plaignent des listes d'attente en santé, mais il faut qu'ils comprennent que l'accès à la santé, c'est plus que des listes d'attente », a-t-elle souligné. Avoir accès à des soins de santé, c'est un privilège au Canada et je n'avais pas ce privilège quand j'étais jeune aux États-Unis. Roxana Farnsworth, mère de trois enfants établie en Colombie-Britannique depuis 2010, redoute les conséquences du procès du docteur Brian Day et de la clinique Cambie Surgery Center contre la province de Colombie-Britannique, un procès qui s'est ouvert le 6 septembre en Cour suprême de Colombie-Britannique et qui pourrait se poursuivre jusqu'en février prochain. Les plaignants souhaitent pouvoir offrir et facturer à leurs clients de façon légale des soins déjà couverts par l'assurance maladie de la Colombie-Britannique. Et les plaignants, donc ce sont des médecins évidemment, se fondent sur la charte des droits pour présenter leur plaidoyer à la Cour suprême. Donc ça reste à voir, est-ce que ça va passer, est-ce que ça va être accepté? On va pouvoir suivre ça au cours des prochains mois. Donc, cette Américaine établie au Canada depuis quelques années lance un cri du cœur en faveur de l'accès universel aux soins de santé. C'est sur le portail de Radio-Canada aujourd'hui. Vous trouverez ça sous le texte Brian Day, Vancouver, procès de l'assurance santé. Voilà, donc sur le portail de Radio-Canada. On fait une petite pause musicale. On va écouter l'excellente pièce de Claude Pelgag intitulée « Les ferrofluides fleurs ». On se retrouve dans deux minutes pour les nouvelles du jour. À tout de suite.
Les ferrofluides fleurs, j'ai mon cœur des idées.
Pelgag dans le débrief avec cette super pièce intitulée les ferrofluides fluides fleurs. C'est une nouvelle pièce qui va s'intégrer à un nouvel album, je crois, qui est sur le point de sortir. On aura d'autres pièces sans doute qui nous parviendront au compte-gouttes avant la sortie de l'album. On va maintenant passer aux nouvelles du jour. Gros coup médiatique de la part des Premières Nations du Canada aujourd'hui. Ça va vraisemblablement marquer un tournant dans le dossier des pipelines qui occupe l'actualité de façon ininterrompue depuis plusieurs semaines et même plusieurs mois. C'est un article qui paraît un peu partout dans les médias. Je vous cite quelques passages du papier paru dans le journal Le Devoir aujourd'hui. Les leaders de plus de 50 premières nations du Canada et des États-Unis viennent de signer un traité contre l'expansion des sables bitumineux et contre les projets qui permettent de transporter ce pétrole, dont les projets de pipeline. Un geste qui pourrait compliquer les choses pour les promoteurs de ces projets. Ce que signifie le traité, a déclaré Serge Simon, grand chef de Canasetake, c'est que du Québec, nous travaillerons avec nos alliés autochtones en Colombie-Britannique pour arrêter le pipeline Kinder Morgan et que nous lutterons aussi avec nos alliés autochtones du Minnesota contre l'expansion de la ligne 3 d'Enbridge, et nous savons que nous aussi, nous pourrons compter sur eux pour nous aider contre le projet Énergie Est de TransCanada. Donc ça, ce sont les propos de Serge Simon, grand chef de Canasetake dans la région de Montréal. Selon le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, l'APNQL, Ghislain Picard, cette entente inter-nation représente seulement le commencement d'une longue lutte. Leur message est sans équivoque, écrit Le Devoir dans cet article. Pour les nations autochtones, l'industrie pétrolière provoque déjà des impacts négatifs significatifs, notamment en aggravant la crise climatique qui affecte directement les territoires des Premières Nations. Or, la production de pétrole des sables bitumineux doit connaître une croissance marquée au cours des prochaines années. Les projets d'expansion actuellement en développement devraient faire croître la production du secteur de plus de 40% d'ici 2025. L'industrie des sables bitumineux produirait alors 3,4 millions de barils par jour contre 2,4 millions de barils à l'heure actuelle. Une telle croissance est impossible sans la construction de nouveaux pipelines, mais aussi un recours accru au transport par train. Le traité autochtone, comme on l'appelle déjà, prévoit donc que les Premières Nations signataires, dont certaines du Québec et certaines de la Colombie-Britannique, s'engagent à interdire l'utilisation de leur territoire pour des projets qui faciliteraient l'expansion de la production pétrolière albertaine. Cela inclut le transport par pipeline, par navire ou par train. Nous savons que les infrastructures qui entraînent l'expansion des sables bitumineux sont à la fois complètement irresponsables et incompatible avec les objectifs du Canada de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, a fait valoir jeudi le grand chef Stuart Phillip, qui est président de l'Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique. Dans l'est du pays, les Autochtones s'opposent notamment au projet de transport de pétrole par train à travers le Québec vers un port qui serait situé à Belle Dune, au Nouveau-Brunswick. Selon les plans de l'entreprise Chaleur Terminal, des convois totalisant 220 wagons par jour traverseraient le sud du Québec, dont l'île de Montréal, pour y acheminer du pétrole brut destiné à l'exportation. Le traité des Premières Nations affirme que les Premières Nations, oui, souhaitent devenir des partenaires de premier plan dans le cadre de la transition vers une société plus durable. Vous avez d'autres articles sur cette alliance qui est scellée par un traité des Premières Nations du Canada et des États-Unis un peu partout dans les médias aujourd'hui. Il y a de très bons textes également sur le portail Ricochet, qui est un média indépendant francophone-anglophone. Du côté anglophone, vous avez un texte justement qui rapporte tout ce qui a été dit aujourd'hui, jeudi. C'était en fait décliné en deux conférences de presse, l'une à Montréal et l'une à Vancouver, simultanées, ces deux conférences de presse. Donc, Ricochet a également tout le topo là-dessus. Et le titre de l'article sur le portail, ça s'intitule « Indigenous Tar Sands Treaties is Trudeau's Worst Nightmare ». Il y a également un article sur le même portail ricochet.media sur l'action et la mobilisation des étudiants partout au pays pour que le gouvernement Trudeau respecte ses engagements en matière d'émissions, en matière de GES. Ceux qui ont bien suivi l'actualité savent que Trudeau s'est fait interpeller à l'aéroport à New York lorsqu'il était cette semaine de passage aux Nations Unies. Il s'est fait interpeller par une étudiante montréalaise de l'Université McGill qui lui a demandé s'il allait donner son accord au pipeline Trans Mountain de Kinder Morgan, ici en Colombie-Britannique. Et Trudeau s'est éloigné assez rapidement et s'est contenté de répondre qu'il y avait un processus en cours, donc sans ajouter autre chose. Mais la pression est là de la part de la société civile, ça c'est certain, et de la part des Premières Nations et des groupes environnementaux. Donc ça continue de bouger sur ces fronts-là. Et tout à l'heure dans l'interview, en fait dans quelques minutes dans l'interview, je recevrai François Brassard de l'organisme Dogwood Initiative. Dogwood Initiative a été très mobilisé contre le projet de pipeline Trans Mountain de la compagnie Kinder Morgan au cours des dernières semaines et derniers mois. Donc Monsieur Brassard va être en studio pour nous donner les derniers développements. L'interview a été enregistrée avant que les Premières Nations tiennent cette conférence de presse, mais elle demeure néanmoins d'actualité. Donc, je vous invite à rester à l'écoute pour cette interview qui viendra très rapidement dans quelques minutes. Mais avant, je voulais vous signaler d'autres petites nouvelles. On a appris aujourd'hui sur la toile, dans à peu près tous les médias, que l'entreprise Yahoo! Qui fournit des services Internet avait été piratée. L'entreprise américaine a été la victime d'une attaque informatique pilotée par une entité liée à un État. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Yahoo, vous le savez sans doute, est l'un des sites les plus visités au monde. Personnellement, j'ai une adresse Yahoo depuis 1997, depuis la fin des années 90. C'est peut-être votre cas aussi. Donc, Yahoo qui a été victime d'un piratage à large échelle. Le site américain a publié aujourd'hui un communiqué confirmant les informations du site Recode. Nous pouvons confirmer que des informations de nos utilisateurs ont été dérobées fin 2014, a expliqué l'entreprise dans un communiqué. Nous pensons qu'il s'agit d'une attaque provenant d'une entité liée à un État. Plus de 500 millions de comptes ont été compromis. Alors, ça fait beaucoup quand même. Yahoo, c'est peut-être pas aussi gros que Gmail et Hotmail, mais c'est quand même énorme. Donc, vous trouverez de l'information là-dessus. Et la plupart des articles vous invitent à changer vos mots de passe et à ne pas utiliser les mêmes mots de passe à travers tous les sites que vous utilisez, bien sûr. Et on va se diriger vers la revue de presse rapidement. On a quelques minutes. Je vous avais parlé d'une chronique d'Yves Boisvert hier dans la presse, mais justement, il me manquait de temps. Là, j'en ai un petit peu plus. Yves Boisvert qui parle dans le journal La Presse, dans sa chronique hebdo, des retards causés par la lenteur des juges partout au Canada. Donc, des retards judiciaires qui deviennent vraiment gênants et surtout bien embêtants pour les justiciables. Alors, Yves Boisvert écrit « On est loin de la crise des juges retardataires d'il y a 25 ans, mais un peu partout au Canada, les tribunaux sont aux prises avec une poignée d'irréductibles magistrats qui ne font tout simplement pas le boulot ou qui n'arrivent pas à conclure. Aucun juge n'a cependant été traîné devant le Conseil canadien de la magistrature malgré leur obligation de diligence. Un juge qui délibère systématiquement un an et demi, 2 ans, sans excuse valable, commet sans contredit une infraction déontologique, écrit Yves Boisvert dans le journal La Presse. C'est une excellente chronique. Je vous encourage à aller la consulter. Bon courage si vous avez une cause devant les tribunaux. Il semble que le système judiciaire là soit sous l'emprise de retardataires et de juges un peu trop lents. Donc le topo de la part d'Yves Boisvert dans les pages de La Presse. Il y a aussi un excellent texte dans le portail Ricochet, côté francophone cette fois. Ça s'intitule « La langue du plafond de verre » et ça concerne la féminisation des titres et des fonctions. C'est signé par Michael Lessard et Suzanne Zakour. Et ces auteurs, donc dans le portail Ricochet, visent certaines pratiques du journal La Presse concernant la féminisation des titres et des fonctions. C'est assez fascinant et c'est très bien argumenté. Je vous encourage à aller jeter un coup d'œil de ce côté, ricochet.info, le versant francophone bien sûr du portail. Et dans Le Devoir à présent, le journal Le Devoir, il y a un texte collectif signé par une ribambelle d'intellectuels et politiciens, universitaires, artistes. On a notamment la co-chef de Québec solidaire, mais plusieurs autres écrivains intellectuels. Ça concerne le maintien de la paix et la réputation du Canada en tant que défenseur de la paix. Et ça s'intitule tout simplement « Le Canada, défenseur de la paix, vraiment ?» Point d'interrogation. C'est un texte collectif, je le rappelle. Je vous lis les premières lignes. « Cette année, la Journée internationale de la paix, le 21 septembre, coïncide avec l'annonce par le gouvernement Trudeau du retour du Canada aux opérations onusiennes de maintien de la paix. Promesse électorale oblige, avec un budget de 450 millions de dollars sur 3 ans et une contribution en effectif de 600 soldats et de 150 policiers. Pourtant, écrivent les auteurs de ce texte. Pourtant, le monde a bien changé et s'est dangereusement militarisé depuis que Lester B. Pearson, diplomate canadien à l'origine des forces de maintien de la paix sous l'égide des Nations Unies. Aujourd'hui, le commerce des armes supplante les missions de paix, les dépenses militaires mondiales atteignant la somme colossale de 1676 milliards de dollars en 2015, alors que les opérations de maintien de la paix coûtent annuellement 8 milliards de dollars. Donc, il y a un déséquilibre, vous le voyez, et vous voyez sans doute où s'en va ce texte collectif. On condamne, bien sûr, les ventes d'armes que continue de faire le Canada à travers le monde. Donc, il y a comme un fossé, là, entre les paroles et les actes que ce texte collectif pointe de façon très éloquente. Je vous encourage à aller lire ça. C'est dans le journal Le Devoir. Ça s'intitule le Canada, défenseur de la paix, vraiment ? Point d'interrogation. Donc, c'est le moment de passer à l'interview. On arrive déjà en fin d'émission. On reçoit, bien sûr, François Brassard de l'organisme Dogwood Initiative. On va écouter ça dans quelques instants. Le sujet, vous l'avez deviné, ça concerne les pipelines ouest, est, sud, les pipelines qui vont dans toutes les directions et auxquelles s'opposent la société civile, les Premières Nations et les groupes environnementalistes. À tout de suite. Thank you. êtes à l'antenne de CILS FM 107,9 dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous d'infos en fin de journée, tous les jours du lundi au jeudi. On accueille en studio François Brassard de l'organisme Dogwood Initiative. Bonjour Monsieur Brassard.
Bonjour, ça va?
Bonjour, ça va très bien, merci. Donc vous êtes responsable chez Dogwood de la section Esquimalt et les auditeurs du Débrief vous connaissent bien. Vous êtes intervenu à quelques reprises dans divers dossiers environnementaux, notamment la question des pipelines, les oléoducs, et c'est justement ce dont on parle aujourd'hui. La question des pipelines est dans l'actualité. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on parle des pipelines. Alors, on a appris cette semaine que la compagnie Enbridge renonçait à faire appel de la décision de la Cour concernant, donc une décision qui avait été rendue par la Cour de Colombie-Britannique contre Enbridge et son pipeline Northern Gateway. Donc le dossier évolue chaque semaine, on a des nouveaux développements, donc on peut penser que Northern Gateway est définitivement écarté du champ des possibilités.
Exactement.
Bon, alors il nous reste deux pipelines qui sont en projet, bien sûr. Il y en a un qui part vers l'est et qui atteindrait le Nouveau-Brunswick en passant par le Québec et qui s'appelle Énergie Est de la compagnie Trans-Canada. Et il y en a un autre qui nous concerne encore plus directement ici en Colombie-Britannique, le fameux Trans Mountain de la compagnie Kinder Morgan, qui est en projet également et qui est existant. Il faut dire que ce pipeline existe déjà. La compagnie souhaite en tripler la capacité. Donc la première question que j'aurais pour vous, Monsieur Brassard, c'est le gouvernement Trudeau est dans une position délicate. Le lobby énergétique est très puissant. La volonté populaire est opposée largement au pipeline. Les sondages récents l'ont encore démontré. Alors, selon vous, comment va manœuvrer le gouvernement Trudeau à présent que Northern Gateway est écarté?
Premièrement, moi, je vois que Trudeau, franchement, ne va pas essayer d'imposer le pipeline de l'énergie Est. Et pourquoi? C'est une question de politique et pas une question de l'environnement. Il sait qu'il y a de l'opposition, non seulement au Québec, et là, c'est assez féroce.
Oui, on a vu les audiences de l'Office national de l'énergie à Montréal qui ont été interrompues. Exactement. Par des manifestants.
Oui. Mais je dois dire aussi, ce n'est pas simplement au Québec. C'est en Ontario aussi, il y a assez bien d'opposition. Oui, il y a aussi de l'autre côté, les compagnies pétrolières ont assez bien de pouvoir et ils voudraient voir le projet avancer. Mais il y a aussi assez bien d'opposition. Alors, premièrement, ce n'est pas une question, la décision n'est pas basée sur les faits scientifiques touchant à l'environnement, touchant à l'économie, aux emplois, etc. C'est une question de jeu politique.
Oui.
Et Trudeau a trop à perdre pour s'il poussait le projet Énergie Est.
Oui,
surtout au Québec.
Oui, l'acceptabilité sociale du projet Énergie Est n'est pas suffisante au moment où on se parle, en tout cas. Les maires des municipalités de la grande région de Montréal sont opposés au projet. Il y a d'autres leaders de la sphère publique qui sont opposés. La population est largement opposée et méfiante à l'égard de ce projet. Donc, effectivement, le projet a peu de chances de recevoir l'appui du fédéral, dites-vous. Mais est-ce que c'est pas la même chose ici en Colombie-Britannique, les mêmes éléments dans l'équation, c'est-à-dire que Vancouver s'oppose à Kinder Morgan, la Colombie-Britannique de Christy Clark s'oppose à Kinder Morgan, la population civile s'oppose à Kinder Morgan. Alors c'est difficile de faire passer le pipeline ici aussi.
Oui, ça c'est vrai, mais Trudeau, comme il y a assez bien de pression sur lui et sur le parti libéral, il est prêt, à mon opinion, il est prêt à sacrifier la Colombie-Britannique.
Ah oui.
Parce qu'il a moins à perdre en question de députés ou présent, il y en a 15.
Oui.
Il y en a 40 au Québec.
Oui, voilà.
Et alors,
c'est ce calcul-là, tout simplement.
Tout simplement. Malheureusement, nous, Dogwood, mais beaucoup d'autres organisations non profitables,
oui,
sont tout à fait opposées. Et nous disons ceci, c'est parce que nous pouvons répondre aux questions de ceux qui sont pour le projet de Kinder Morgan. C'est un projet d'expansion, comme vous l'avez dit. Et franchement, ce n'est pas nécessaire. Ils disent que nous avons besoin, l'économie du Canada a besoin de ce projet. C'est pas vrai. Pour plusieurs raisons. D'abord, nous n'avons pas besoin de cette mine ou de bitume, encore pire. Nous n'avons pas besoin, on a assez pour le Canada. Donc, toute la question, c'est une question d'exportation.
Oui.
Ils veulent, oui, construire une autre pipeline qui franchement, pousserait une expansion d'abord de l'extraction, première production et puis la distribution. Et alors, tout cela va créer un problème en question des émissions à effet de serre.
Oui.
Et même, surtout, un des arguments que nous posons, c'est que Kinder Morgan ne veut pas qu'on se concerne du fait que ça va être exporté. Non, ils ne veulent pas. Ils disent, nous sommes une compagnie de distribution. Voilà tout. Et nous disons, oui, mais vous savez très bien qu'est-ce qui va arriver une fois exporté à l'étranger. Ça va être consommé.
Oui.
Ce qui va contribuer énormément aux effets, aux émissions,
oui,
à effet de serre.
Mm-hmm.
Et peu importe là où c'est consommé, sur la planète, c'est tout le monde qui en souffre.
Oui.
Et le fait est que ce serait impossible si cette expansion serait avancée. Ce serait impossible pour Trudeau de réaliser ou satisfaire ce qu'il a promis de faire
l'an dernier.
Il ne pourrait pas accéder à cela. Ce serait impossible. Il ne veut pas le dire, mais c'est le fait. Deuxièmement, c'est aussi, au point de vue économique, on n'a pas besoin de cela. Si on regarde de très près, ce n'est pas tellement l'opposition environnementale de groupes comme Dogwood et d'autres qui, franchement, touche à cette question. C'est simplement le prix très bas du bitume.
Oui.
Et alors, s'il n'y a pas assez d'argent de sorte que ce ne serait pas profitable, les compagnies ne peuvent pas continuer. Et ça, c'est un fait aussi. Donc, et question d'emploi, il y aurait très peu d'emplois. Et de plus, nous donnons comme argument que ce serait beaucoup mieux si on poussait davantage vers une transition hors du pétrole.
Oui.
Et que nous poussions davantage pour l'énergie renouvelable. Ce qui se fait d'ailleurs aux États-Unis, beaucoup plus qu'ici, mais n'empêche, le Canada est un peu en retard, mais ça pourrait commencer et de beaucoup déjà, avec le transport surtout. Et il y a déjà beaucoup plus d'emplois ici au Canada, dans le secteur de l'énergie renouvelable, ou bien simplement dans la question des emplois verts, que ce qu'il y a dans toutes les compagnies pétrolières à l'instant.
Oui, en 2016.
Oui.
Voilà. Donc, à méditer, ça c'est clair. Il faut justement rappeler aux auditeurs que les sables bitumineux sont polluants dès l'extraction, c'est-à-dire dès le procédé d'extraction. Ils sont très polluants à la même échelle qu'une ville comme Mexico City. Les émanations qui sont produites lors de l'extraction sont de cette échelle-là. Et après, c'est transporté dans des pipelines qui sont eux-mêmes dangereux.
Oui.
Et ensuite, c'est destiné à un marché où seront brûlés justement ces produits-là, et ils vont contribuer de façon massive puisque la capacité est triplée, la capacité du pipeline est triplée, contribuer aux émissions. Voilà. Donc, et vous disiez justement qu'il n'y a pas d'emploi ou très peu. Alors, seuls les actionnaires, les shareholders, comme on les appelle en anglais, vont tirer profit de ces projets-là, quelque part.
En contrepartie, c'est presque sûr que si cette expansion arriverait, on sait très bien que dans le port de Burnaby,
oui,
pour l'instant,
Burnaby, qui est une autre ville opposée férocement
complètement
au pipeline.
Et pourquoi? Parce à cause du risque
oui.
d'une fuite. Et ce qui
oui.
est déjà arrivé il n'y a pas longtemps.
Oui.
Et
on a appris cette semaine que le nombre de fuites dans les pipelines en Colombie-Britannique est en hausse.
Oui, absolument.
D'année en année.
Oui.
Donc,
alors,
il y a de plus en plus d'incidents.
Et ça, le danger est beaucoup plus grand parce qu'ils veulent augmenter le nombre de super tankers
oui.
qui passent dans le port de Burnaby de 5 par mois à 21 par mois.
D'accord.
Alors là, même le département du transport fédéral a dit que les risques sont bien trop dangereux. Il va y avoir une fuite parce que, à cause de la congestion qu'il y
oui.
aurait dans le port.
Oui. Donc, beaucoup de dangers, peu d'incitatifs, peu d'avantages, peu d'atouts pour la Colombie-Britannique, que des risques, uniquement des risques à l'industrie du tourisme, notamment, qui souffrirait énormément s'il y avait un accident.
Et les pêches.
Oui, les pêches aussi.
Oui. Aussi, il y a un autre fait. On dit que on pourrait passer plus vite à une économie basée sur l'énergie renouvelable si on enlevait les subsides donnés aux compagnies pétrolières et
oui.
les donner davantage aux compagnies qui travaillent fort.
Et qui emploient plus de monde.
Qu'on change cela. Et aussi, on pousse aussi que les compagnies pétrolières, surtout dans le cas de l'extraction, que ces compagnies devraient payer pour l'eau qu'ils utilisent, qu'ils empoisonnent, franchement, mais ils devraient payer pour cette eau-là, puisque tout le monde, tous les citoyens
oui.
payent.
Ils
pour
puisent
l'eau
qu'ils de l'eau,
utilisent.
Oui.
Oui, oui. Pourquoi pas eux?
Oui, exactement. Excellente question. Beaucoup de questions à poser à l'industrie qui semble avoir tous les avantages, tous les bénéfices et aucune responsabilité.
Exactement.
C'est très malheureux. Vous savez comme moi que dans les dossiers controversés en politique, les gouvernements profitent souvent de l'inattention des électeurs à un moment bien particulier comme le vendredi soir ou la veille des vacances pour annoncer des décisions impopulaires. Donc, j'imagine un scénario dans lequel le gouvernement Trudeau va annoncer son appui à Trans Mountain de Kinder Morgan le 24 décembre 2016 à la veille de Noël ou des grandes vacances de la fin d'année. Et comme ça pour passer inaperçu et que les gens soient distraits par autre chose. Est-ce que c'est ce qui va se produire?
Déjà, on a vu exactement ce scénario déjà le 23 août ici à Victoria, lorsqu'il y a eu ces soi-disant consultations avec un comité de 3 personnes choisies par le ministre de l'Environnement.
Oui.
Dont ici, très mal organisé,
oui.
terriblement.
C'est un comité itinérant qui a fait le tour de la province
oui,
et qui a fini ici à Victoria.
Oui.
Oui.
Oui. Et on a bien vu ce qui est arrivé. Ils ont choisi un lieu pour cela où il n'y avait pas assez de place.
Oui.
Les gens ne pouvaient pas entrer. Ils ont minimisé, même s'ils ont poussé un tout petit peu plus pour le temps, il y a plus de la moitié des personnes qui étaient indiquées pour parler ne pouvaient pas.
Ah.
Et ils n'ont pas réussi à le faire. De plus, des trois membres de ce comité, il n'y avait qu'un seul qui était là.
Il y avait de l'absentéisme de la part d'un ou deux membres de ce comité.
Exactement.
Effectivement.
Alors là, quand on voit, et qu'ils ont choisi de faire ceci dans les mois de juillet et spécialement en août, période des vacances,
oui.
C'était justement pour cacher l'affaire. Ils ne pensaient pas que les gens allaient faire quelque chose.
Oui.
Et bien, Dogwood a bien fait.
Oui, Dogwood s'est mobilisé, ainsi que d'autres organismes environnementaux et des citoyens à titre personnel ont fait des interventions également. Et là, le comité est en pleine rédaction actuellement d'un rapport qu'il va soumettre au gouvernement Trudeau en novembre. Et Trudeau va devoir prendre une décision d'ici la fin de l'année. C'est ça le calendrier, du moins. Est-ce que on peut pronostiquer les conclusions du rapport que va rendre le comité, selon vous?
Oui, ils vont l'approuver, selon moi. Mais ça, moi, je dis, peu importe, ça ne fait rien. Le projet ne pourrait pas avancer, de toute façon, parce qu'il y a encore des procès en cours,
oui,
par les Premières Nations qui touchent aussi à des permis qui sont nécessaires pour la construction de passer ici, d'être accepté par le gouvernement provincial.
Oui. Vancouver, Burnaby.
Il y aura bien trop de pression sur Christy Clark de pouvoir ignorer cela. Elle serait obligée de tenir compte de l'opposition et de ne pas accorder ses permis. Si elle le fait à
ses risques et périls.
À ses risques et périls à cause de l'élection qui s'amène en mai de l'année prochaine.
Oui, exactement.
Et elle le sait fort bien.
Oui, d'accord. On va se laisser là-dessus. On va revenir sur le sujet, assurément. C'est un sujet qui va continuer d'occuper l'actualité, c'est certain. Merci d'être venu en studio à CLS, François Brassard de l'organisme Dogwood Initiative. À très bientôt.
Merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion.
Au plaisir. C'était François Brassard de l'organisme Dogwood Initiative, section Esquimalt, à l'antenne de CILS FM 107,9 dans le débrief. On arrive déjà au terme de cette heure d'information. Merci d'avoir été avec nous et merci à tous les auditeurs qui nous écoutent en rediffusion en matinée du 23 septembre. Le débrief vous reviendra lundi 26 septembre, demain vendredi. C'est Sport et Santé à 16h, une émission hebdomadaire que j'ai le plaisir d'animer. C'est un rendez-vous. Et en attendant, à tous, une excellente soirée à l'antenne de CILS FM.